Bonjour à tous. Même si j'ai déjà été devant, c'est l'occasion de dire que c'est un plaisir d'être là devant vous pour ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et tu peux afficher, Anaëlle, je te remercie. La parole nous précède. Voici la lecture que j'aurais voulu vous faire, que je veux vous faire ce matin. Le texte sur lequel j'aimerais que nous réfléchissions ensemble, qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, cette lettre qu'il a envoyée à l'église qui se trouve à Philippe. Donc, la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, et à partir du verset 12. Je lis dans la même version que celle qui est affichée. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait. Mais je continue à courir pour saisir le prix. Parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. Mais j'oublie la route qui est derrière moi et je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante. Courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes des chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Et si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Si vous l'ignoriez avant le début du culte, cette fois-ci, je suis sûr que vous ne l'ignorez plus, cette semaine, c'était la rentrée. Et la rentrée, c'est aussi l'occasion de reprendre le sport pour certains. Ici, Paul parle de course. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui courent. Moi, j'aime bien courir. Ça fait partie de mes activités. Ceux qui courent entendront peut-être dans ce texte un écho particulier. Paul compare la vie chrétienne à la course. Et il utilise cette comparaison comme une illustration de la persévérance nécessaire. J'aime bien courir. J'aime bien la course parce que ce n'est pas difficile techniquement. On achète une paire de baskets et on peut aller courir. La difficulté, c'est la persévérance. La difficulté, c'est de continuer à courir. Mais le point de départ, il n'est pas difficile. L'enjeu, c'est de se battre contre soi-même, de se faire violence. C'est un effort de volonté. Et en lisant le texte de Paul, ce texte où il parle de course, il y a quelque chose qui m'a frappé, un mot qui revient deux fois, c'est le but. L'important quand on court, c'est de savoir pourquoi on le fait, dans quel but. Parce que dans nos vies, on peut avoir l'impression de courir. Et particulièrement en cette période de rentrée. Si vous avez des enfants, il a fallu les amener à l'école, faire les courses pour les fournitures scolaires. Bientôt, il y aura les rencontres avec les professeurs, il y a les inscriptions pour les différentes activités, et puis il va falloir les emmener dans ce nouveau rythme pour cette nouvelle année scolaire. Je ne sais pas pour vous, chez nous, ça ressemble à une course. Vite, il faut sortir du travail, récupérer un tel, emmener tel autre à tel endroit. Et puis pour les adultes aussi, pour ceux qui travaillent, la rentrée est pleine d'enjeux. En France, on a cette habitude pendant 2 mois de ralentir l'activité professionnelle. Et en septembre, eh ben, il faut remettre la machine en route. Beaucoup de choses à faire. on regarde les objectifs, est-ce qu'on est en retard, et on remet les choses en place pour la dernière ligne droite, pour atteindre des objectifs avant la fin de l'année. Oui, on court à la rentrée, et j'ai l'impression qu'on continue de courir pendant l'année. Et si on a de l'énergie en septembre, quand c'est la fin de l'été, au cœur de l'hiver, on n'en a pas forcément. Et parfois, on se demande pourquoi on continue. Pourquoi on continue à courir? C'est quoi le but? Et au milieu de tout ça, il y a l'Église. Et l'Église, ce n'est pas forcément un lieu où on se repose. L'Église, c'est aussi un lieu qui nous propose plein d'événements sur lesquels on sollicite notre participation et à la rentrée plus qu'à un autre moment. Et puis, dans notre Église aujourd'hui, on a aussi notre projet bâtiment, cet effort que nous voulons faire ensemble pour aménager un lieu, pour aménager une Église capable d'accueillir 300 personnes. Et là aussi, ça vient mettre des objectifs en plus, une pression en plus, une invitation en plus à faire des choses pour finir. Nous nous donnons de beaux projets, mais quand on fatigue, on peut se demander pourquoi, dans quel but. Et Paul le dit au verset 14, il veut courir vers le but pour gagner le prix. Qu'est-ce que c'est le but? Qu'est-ce que c'est le prix dans cette course chrétienne? Je crois que le but de la course dont parle Paul, c'est de passer la ligne d'arrivée, de terminer, d'être encore en course quand vient la fin. Quand j'ai passé mon bac, il y a maintenant un certain temps, dans l'épreuve de sport, il y avait une épreuve d'endurance. Et je me souviens, au début de l'année, la prof nous avait vraiment dit, c'est facile si vous avez à courir pendant 20 minutes et si vous terminez ces 20 minutes sans vous arrêter, vous avez la moyenne. Et après, selon la distance, vous pouvez avoir des points en plus, mais vous visez de terminer et vous avez la moyenne. C'est un peu pareil pour la course chrétienne. Le but, c'est de continuer jusqu'au bout. Être encore dedans quand le temps s'achève. Être encore chrétien. Continuer de donner de l'importance au commandement divin. Continuer de se tourner vers Dieu. Et que, au moment où la course s'arrête, nous ayons la fierté d'être toujours dedans, d'avoir été fidèles, d'être resté fidèles jusqu'au bout. Et Paul le dit, afin de recevoir le prix. De quel prix est-ce qu'il parle? Si on lit un petit peu avant, au verset 10, Paul explique quel est ce prix. Le prix, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se relever de la mort. Connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. C'est vivre avec lui pour toujours, rentrer dans ce repos à ses côtés. Pourquoi le faire? Pourquoi courir cette course? Parce que, Paul le dit encore, parce que Christ nous a saisis. Christ nous a saisis, il nous a choisis, nous avons la foi, nous avons la conviction que c'est vrai. La conviction qu'il n'y a rien de meilleur que de le connaître. Qu'il n'y a rien de meilleur que d'être avec le Christ pour toujours, dans la satisfaction de son repos. Et quelque part, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de courir cette course. Parce que Christ nous a saisis. Et ça m'a fait penser à cette parole de Simon-Pierre, le disciple, dans l'évangile de Jean, qui dit à Jésus, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller ? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. » Il n'y a pas le choix. Quand on a découvert Jésus, qu'on a découvert le sens qu'il donne à la vie, il n'y a pas d'autre choix que de le suivre, que de rester avec lui. Lui qui a ses paroles de la vérité, ses paroles qui donnent la vie. Et en même temps, la référence à cet épisode avec Simon-Pierre, elle est intéressante parce que ça se passe à un moment de la vie de Jésus où les choses ne sont pas faciles, où il y a beaucoup de disciples qui s'en vont. Il y a beaucoup de personnes qui le suivaient et qui partent. Elles partent parce que Jésus les met au pied du mur. Dans l'évangile de Jean, on voit, il y a les personnes, les foules qui le suivent, qui écoutent l'enseignement. Et puis, tellement enthousiastes, elles oublient de partir. Alors, Jésus les nourrit avec la multiplication des pains. C'est sympa. On suit Jésus, on écoute un enseignement qui nous fait du bien et il nous renouvelle, il nous nourrit, y compris physiquement, concrètement. Mais à ce moment-là, Jésus les interpelle, ceux qui le suivent, et leur dit « Cet enseignement que je vous donne, il faut le suivre, il faut le mettre en pratique. » Et là, ceux qui le suivent le trouvent trop difficile. Et plusieurs commencent à partir. Et Jésus pose la question aux 12, au cercle le plus proche qui reste à côté de lui. Et vous alors ? Vous partez pas ? Il y a cette réponse. Où irions-nous ? Où d'autres aller ? C'est toi qui as la vie. Nous sommes invités à continuer. Continuer à courir pour obtenir ce qui est précieux, ce que nous savons être le plus grand trésor. Mais ça nous donne une autre question. Comment faire ? Comment faire pour courir ? Comment faire pour persévérer ? Et là encore, Paul nous donne la réponse au verset 13. « J'oublie la route qui est derrière moi et je suis tendu en avant. » Oubliez ce qui est derrière soi. L'important, ce n'est pas ce que nous avons accompli, mais c'est de continuer à rester fidèle. L'important, ce n'est pas ce qu'on a accompli. On peut être chrétien depuis des années. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas un label qui est posé sur nous. Et même l'expérience peut nous amener à nous ramollir. J'ai lu dans un livre d'Eugène Peterson cette phrase qui m'a fait réfléchir. Il écrit « Dans la vie spirituelle, les plus grandes erreurs sont commises non par des novices, mais par des aînés. Le plus grand risque de se fourvoyer dans la prière ne survient pas dans les premières années de vie chrétienne, mais plus tard, et même dans les dernières. » Quand on lit ça, quand j'ai lu ça, j'ai repensé à certains exemples bibliques. Si vous connaissez la Bible, vous vous souvenez peut-être du roi Salomon et de la fin de sa vie. Du juge Élie, à qui Samuel a décidé, même de Gédéon, et d'autres encore, qui ont bien commencé et qui, sur la fin, laissent un bilan beaucoup plus mitigé. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que on lâche ? Pourquoi est-ce que la vigilance s'endort ? Peut-être parce que nous avons eu l'occasion de marcher avec le Seigneur, d'être confrontés à des problèmes. Et nous oublions. Nous avons prié. Dieu nous a répondu, il a montré un chemin, il a donné sa sagesse, il a placé à côté de nous des frères ou des sœurs. En tout cas, il est intervenu quand nous avons fait appel à lui. Et ça a marché. Et du coup, on se dit que ça y est, on sait comment faire, on a la solution, on a trouvé les ressources. Et nous oublions que le plus important, ce n'est pas les ressources que Dieu nous a données. Le plus important, c'est que nous nous soyons tournés vers lui à ce moment-là. Oui, l'expérience de ce que nous avons connu peut parfois être un handicap sur lequel nous nous reposons et qui nous retient de retourner vers Dieu. Il peut nous faire oublier notre dépendance. Or, c'est cette dépendance envers Dieu qui est notre force. Ne pas regarder en arrière, donc. Ne pas regarder les exploits passés comme des réussites, comme quelque chose qui nous aurait donné de l'avance, de la marge. De l'avance sur quoi? De l'avance sur qui? Sur les autres? Mais ce n'est pas contre les autres que nous courons. C'est contre nous-mêmes. Ne pas regarder en arrière, tendre vers ce qui est en avant. Regardez la piste qui continue. De toute façon, courir en regardant derrière soi, c'est toujours assez périlleux. Alors, restez concentrés sur ce qui est devant, sur le pas suivant, sur le geste, sur la respiration, sur ce qui est à venir, sur l'épreuve suivante, sur l'enjeu suivant. Et quand on fait ça, quand vient la fin, au lieu de ralentir, on accélère. Au début de l'été, il y a mon fils James qui a voulu courir avec moi. Il a 10 ans, je pensais qu'il aurait du mal. Il a réussi à me suivre tout au long de ma course. Et quand on est arrivé rue Guynemer, il était toujours là et c'est là qu'il a accéléré. Il m'a laissé sur place. Il a accéléré pour pouvoir terminer avant moi. Et c'est intéressant parce que dans le grec, le verbe qui est traduit par courir ici, ce n'est pas le même verbe que celui que Paul emploie d'habitude quand il dit courir. Il y a un verbe, courir, c'est tréco. Et ici, c'est un autre verbe, dioko, qui ne signifie pas juste courir, mais courir rapidement comme pour rattraper quelque chose ou une personne. C'est le verbe qui veut dire poursuivre. Et là, Paul, quand il écrit aux Philippiens, il a l'impression qu'il approche de la fin de sa vie. Hein, il est arrêté par les Romains et le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment il va jusqu'à Rome. Et bon, on sait que c'est à Rome qu'il est mort. Donc, il sent la fin des choses. Et là, ce qu'il leur dit, c'est plus qu'il court, comme il a pu le dire dans l'Épître à Timothée, comme il a pu le dire ailleurs. Non, là, il accélère. Quand il sent la fin approcher, il accélère. Tourner vers ce qui est devant. Il y a autre chose qui est intéressant dans ce texte, qui est remarquable, c'est que ce n'est pas une course en solitaire. Après avoir dit comment il courait, Paul passe à la première personne du pluriel. Nous qui sommes chrétiens adultes, nous devons avoir cette façon de penser. Continuons la même route. Ou, dans d'autres traductions, avançons ensemble. Parce que cette course, nous ne la courons pas seuls. Nous sommes ensemble. Être chrétien, ce n'est pas une relation personnelle avec Dieu déconnectée d'autres. Et si vous n'étiez pas là, je vous renvoie à à la prédication de Philippe la semaine dernière sur l'Église. L'Église, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui fait partie du plan de Dieu. Et même, peut-être quelque chose qui va vous surprendre, Jésus n'est pas mort pour sauver des individus. Non, je cite la lettre à Tite au chapitre 2, « Il a donné sa vie pour nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. » Jésus est mort pour faire un peuple. C'est pourquoi nous ne courons pas seuls, mais nous courons ensemble. C'est une course bien étrange, finalement, où nous courons ensemble sur la même piste. Certains ont commencé avant nous, certains à côté de nous ont commencé avant. Certains terminent la course avant les autres, non pas qu'ils abandonnent, mais qu'ils sont arrivés à la fin. Ils ont atteint le but que Dieu leur a donné. Pour certains, la course est longue, pour d'autres, elle est plus courte. Certains ont commencé avant nous. Certains continueront quand nous aurons terminé. Mais nous courons ensemble sur cette piste. Et nous pouvons nous encourager. Quand je cours, j'aime plutôt courir seul, parce que ça me permet de réfléchir. Je suis seul avec mes pensées, j'aime bien la solitude dans ce moment-là. Mais cet été, on a des amis qui sont venus nous rendre visite, et en particulier un couple anglais qu'on n'avait pas vu depuis des années. Et un matin, Shamshir a voulu courir avec moi. Donc, je l'ai emmené et j'ai été surpris de voir que le circuit que je faisais d'habitude était plus facile avec lui que quand je le fais seul. C'était plus facile de courir à deux en s'entraînant, en s'encourageant. Le Seigneur a voulu un peuple et il nous a mis ensemble les uns avec les autres. Et dans l'Église que nous formons ici, nous nous sommes donné ce projet qu'on a libellé ainsi, des disciples qui font des disciples. C'est le projet, c'est le libellé sous lequel nous comprenons ce que Dieu attend des chrétiens, attend de son Église. Nous voulons être une communauté de disciples qui font des disciples. Alors, on se souvient souvent de la partie « qui font des disciples », de cette partie de croissance externe, de croissance du peuple de Dieu. Et on veut être une communauté qui invite autour de nous pour répandre la parole, qui accueille ce que Dieu envoie, qui baptise ceux qui veulent s'engager. Mais nous sommes nous-mêmes disciples. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous voulons grandir. Nous voulons recevoir l'enseignement des commandements de Jésus et les suivre effectivement. Nous voulons être envoyés auprès des autres et servir effectivement. Et c'est le but de ce que nous voulons vivre ensemble, c'est le but par exemple de nos groupes de maison qui ne sont pas une raison de courir, de ressortir dans la semaine pour mettre un peu plus de pression, mais qui sont là pour être un lieu de croissance où nous nous encourageons les uns les autres à grandir. Et dans le programme que nous donne Paul, courir n'est pas une option. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette parole un peu volontariste. Si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera. Mais continuons. Paul dit aux chrétiens à qui il écrit, vous pouvez ne pas être d'accord sur tout. Mais en attendant, on avance. Dieu vous convaincra, mais on avance. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, et je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé quand même que Paul, il est un peu gonflé. Parce que quand même, il est en train de leur dire qu'il a plus raison qu'eux. De quelle autorité est-ce qu'il leur dit ça ? Dans le doute, on avance comme j'ai dit. Il le dit de son autorité apostolique. Paul est apôtre, chargé de répandre la parole dans ses débuts de l'Église. Il est fondateur de l'Église de Philippe, missionnaire reconnu et envoyé par l'Église de Jérusalem autour de la Méditerranée. C'est un enseignant reconnu par d'autres, à qui une tâche a été confiée. Et dans l'Église, nous avons l'invitation à vivre dans la soumission mutuelle, dans le respect de ce que Dieu a institué et que l'Église a reçu comme venant de sa part. En tout cas, avançons, dit Paul. Ce n'est pas essayer de marcher ensemble, chacun de son côté, en attendant que Dieu nous rassemble. Il ne leur propose pas non plus « arrêtons-nous » jusqu'à ce que Dieu nous rende d'accord. Et je crois même que l'adversaire, le diable, adorerait cette dernière proposition. « Arrêtons-nous jusqu'à ce que nous soyons tous d'accord. » Parce que si c'est la position, il suffirait alors que le doute subsiste chez une personne et on ne se remettrait pas en route. Et l'Église n'avance plus. Non. Avançons. Avançons dans la fidélité, avançons dans la course, continuons à courir. Cette course, elle concerne tout le monde. Elle va avec le salut que donne Dieu. Alors, dans cette prédication, j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai parlé des groupes de maison, j'ai parlé du projet d'église. Et ce seront là l'objet de mes deux prochaines prédications. Mais pour ce matin, j'aimerais vous laisser avec cet appel finalement à la persévérance que donne Paul. Continuer la course. Malgré la fatigue, malgré les difficultés, continuez. Un pied après l'autre, un pas après l'autre, avec à nos côtés beaucoup d'autres coureurs qui nous encouragent. Continuez la course pour atteindre le but, c'est-à-dire être encore en course quand elle s'arrêtera pour nous. Et alors, recevoir le prix. Ce prix promis par Jésus, ce prix qui nous a fait un jour nous lever, qui nous a fait un jour le rejoindre, prendre une décision pour lui. Ce jour où nous avons été saisis et que nous avons reconnu que les paroles de Jésus apportent le plus grand des bienfaits, la vie éternelle et la victoire en lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous invites à la persévérance. À maints endroits dans ta parole, tu le fais et nous l'avons rappelé ce matin. Fortifie-toi et prends courage. Poursuivons ensemble la course. Et Seigneur, ce n'est pas facile parce que nous nous savons faibles. Nous savons que la fatigue nous guette, Nous savons que nous sommes limités dans notre persévérance. Seigneur, devant toi, nous voulons simplement te dire que nous voulons continuer avec toi et nous voulons humblement te demander que tu nous donnes la force et que tu nous aides à ne pas ralentir, satisfait du chemin parcouru, mais à garder les yeux fixés vers l'avant sur ce que tu veux encore accomplir dans nos vies, sur la façon dont tu veux encore te servir de nous. J'aimerais te prier que tu nous donnes la force. J'aimerais te prier que tu nous donnes, comme tu l'as promis, la joie lorsque nous marchons avec toi. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que tu sois glorifié par le peuple que nous formons. Je te prie au nom de Jésus. Amen.